Ville PM. Faut que je te raconte. Voici Michel Barrette.
On l'a entendu, celle-là, hein? Les parents, là, les longues promenades en voiture, en écoutant Passe-partout. Dans ce cas-ci, c'est Canel et Pruneau qui chantent L'été, c'est fait pour jouer. Et aujourd'hui, il y a un... Hein? Allô, alors c'est Michel qui nous rejoint par téléphone. Bonjour, Michel Barrette.
Oui, est-ce que tu veux venir jouer dehors avec moi?
Est-ce que je veux jouer dehors? Ben, ça dépend. Tu veux jouer à quoi, là?
À la marelle, à la bataille, on peut... à la corde, faire du vélo, on peut mettre un feu quelque part, comme c'est ton choix.
Oui, mais le texte du devoir ce matin, il parle des adultes. Il pose la question, est-ce que comme adulte, on est encore capable de jouer dans le monde de performance et de réussite, obsédé par les réussites dans lequel on est présentement? Puis je vais vous poser cette question-là, les auditeurs, dans un instant. Mais moi, je te pose la question, est-ce que tu joues encore, toi, Michel, malgré toutes tes occupations? Puis justement,
ben,
tes...
Justement.
Oui?
Justement, la plupart de mes occupations sont un jeu. Parce que lorsque je suis 2 heures de temps sur scène, je suis comme un enfant qui s'amuse à faire rire les autres. Tu sais, mon métier d'humoriste, c'est ça, dans le fond, c'est de se prendre pour quelqu'un d'autre, c'est de monter sur scène, puis aller chercher le rire. Lorsqu'on joue au cinéma, on joue, parce qu'il y a le plaisir de jouer. On n'est pas là, bien sûr, on est là pour la performance d'acteur, on veut quand même être crédible, mais on est d'abord là, d'abord et avant tout, pour s'amuser à jouer un personnage qu'on n'est pas dans la vie. J'ai joué beaucoup de policiers, j'ai joué toutes sortes d'affaires dans toutes sortes de séries et de films, mais à chaque fois, c'est de jouer, c'est de s'amuser, c'est de se prendre comme un enfant qui se déguise. Alors, j'ai la chance, et je joue aussi parce que la chance que j'ai, c'est d'avoir un petit garçon de 12 ans et qui me ramène à mon enfance. Alors, ces jeux, lui, lorsque je les partage, bien, automatiquement, j'ai 12 ans moi aussi. Alors, oui, je joue beaucoup et en cachette, je joue encore avec des petites autos, je fais encore des autos à coller, je dessine.
Tu joues avec des autos en cachette?
Bien là, c'est moins en cachette parce que je t'en parle, là. Mais
comment tu joues? Qu'est-ce que tu veux dire? Tes mains une à côté de l'autre, tu fais vroom vroom?
Non.
oui.
C'est-à-dire que... Ben, exemple, j'ai encore tout récemment, j'avais une piste de course de 40 pieds de long. Tu sais, les petits circuits électriques, là.
Oui. Mais les voitures débarquaient tout le temps avec ces jeux-là, Michel.
Non, c'est parce que tu sais pas conduire. Et alors, je m'amusais à créer les puits... des estrades, le snack bar, à monter des bandes son pour qu'on ait là vraiment à être à la piste de course.
Tu retombes en enfance un peu, Michel. C'est un peu ça, non? Tu retombes en enfance.
Retombes en enfance. Je chronométrais chacune des voitures, puis j'essayais de battre l'autre, puis je créais des personnages. Chaque voiture était pilotée par un coureur différent qui avait sa vie, sa fiche, son lieu de naissance. Alors, oui, je joue.
Est-ce que vous avez... Les auditeurs, des moments où vous vous amusez dans la vie. Là. Mettons là, des moments, ça peut être n'importe quoi.
Mais pas s'amuser avec des jeux d'adultes. Est-ce que vous êtes encore capable d'aller chercher votre cœur d'enfant en vous-même et de faire sortir? Là. Tu sais, de vraiment là, de lâcher son fou sans penser performance. Parlez-moi pas que vous faites du sport et que vous avez vous monté le Mont-Royal à la course. Là. On parle vraiment de s'amuser pour s'amuser. Comme quand on est un enfant. Et ça ressemble à quoi, l'enfant en vous?
790-9850, 98985. Ayez pas peur du ridicule, là. C'est pas grave, ça, là. De toute façon, si vous avez peur du ridicule, donnez-moi pas votre vrai prénom, puis ça va finir là. Mais je suis curieux parce que c'est le texte, donc, je le disais, de Laurie Noreau dans Le Devoir. Puis écoute, c'est pas pour rien qu'on en parle, c'est que ça m'a un peu brusqué, moi, parce que ça t'oblige à te poser la question. Coudonc, les moments dans notre vie de fou, là, où on travaille comme des malades puis on court tout le temps, est-ce qu'il nous en reste encore des moments où on a du plaisir comme on en avait du temps qu'on était des kids?
Et tu réponds quoi à toi, ton gamin?
Je vais te dire, va te faire une petite confidence. Quand je finis l'émission à 15h, il faut que je m'épivarde, il faut que j'aille faire un peu d'exercice physique, là, parce qu'à un moment donné, il faut que tu ailles refaire ton plein d'énergie.
Ouais.
Et là où je vais, Alors, je fais de l'exercice, je fais de la course, puis tout. Mais il y a un gymnase, Michel. Okay. Et quand j'ai pas trop d'énergie, mettons que ça me tente moins, je m'en vais dans le gymnase, je prends le ballon de basket, puis je m'amuse à lancer, puis à courir dans le gymnase, puis à faire des baskets. Puis j'ai joué au basket au secondaire, j'étais pas très bon, là, tu sais, je jouais sur le banc, là. Mais j'ai adoré jouer au basket quand j'étais jeune, et je me retrouve tout seul, j'ai 55 maintenant, là. Puis je me retrouve comme quand j'avais 14, 15, 16 ans, faire mon lay-up, la main droite, la main gauche, essayer ma shot sur les coins, essayer mon lancer de la ligne, des tirs de punition, là, des lancers francs. Écoute, j'ai du fun, mon vieux.
Et sais-tu quoi, Bernard? J'ai l'impression que les gens qui jouent encore, qui sont capables d'aller justement penser, peu importe qu'ils ont 60, 55 ou 83, de se ramener à l'enfance, ils vont vieillir plus heureux et plus vieux.
Ah, je suis d'accord. On a plein d'appels, Michel. On va aller à François d'abord. Bonjour, François.
Oui, bonjour, messieurs.
Je vous écoute.
Bon, moi, c'est simple. J'ai 33 ans. Et puis, une fois par mois, je m'adonne à ce qu'on appelle des grandeurs nature.
Des quoi?
Donc, des grandeurs nature. Okay. En anglais, c'est du live action role-playing.
OK.
Donc, on s'en va une fin de semaine dans le bois, costumé, incarner des personnages avec des armes, des armures, puis on rentre dans un scénario, on combat avec des épées en mousse,
wow.
Puis on décroche complètement.
Le trip médiéval, je pense, hein?
Exactement. Ben, maintenant, c'est médiéval, à l'époque moderne, il y a vraiment des scénarios très variés, là. Il y a une communauté de plus de 6000 personnes là, au Québec qui font cette activité-là.
Ah, c'est cool. Merci, merci François. Continuez à avoir du fun. Tu vois, j'ai plusieurs textos, là. C'est le fun. Je suis prof d'éducation physique au secondaire. Je joue avec les élèves. Je trippe. Il y en a un autre qui m'écrit, Michel, il dit la ronde, le manège, le splash, demeurer sur le petit pont, se faire arroser par le manège qui descend et qui te renvoie de l'eau. Ça, c'est Rémi qui nous écrit. Il y en a un autre qui dit pogner des grenouilles puis des couleuvres avec mes enfants. J'ai tellement du fun. J'ai 57 ans. Mon grand plaisir, c'est de me balancer. Un autre,
oui,
ça.
Une balançoire.
Exact.
C'est capable des grenouilles, ne faites-les pas fumer. Hein.
Non.
Il y en a qui faisaient ça, faisaient fumer.
Ben,
les
je
grenouilles.
Le sais, je le sais. On a tous fait
ben,
ça.
Jouer au paintball. Est-ce que tu as déjà joué au paintball? Si tu t'en vas dans un centre, là, puis t'as un fusil qui lance des balles.
Non, sais-tu quoi? J'en rêve. Ça fait plusieurs années que je me dis, je vais finir par le faire, puis je le fais jamais. Il va falloir que je me décide. Hubert, bonjour.
Bonjour à vous deux.
On vous écoute, là.
Bonjour.
Depuis que j'ai commencé à acheter des Legos à mon gars, moi, je suis retombé là-dedans. Fait que des fois, tu sais, j'en achetais à mon gars, puis je m'en achète un pour moi pour le monter moi-même. Fait que,
des quoi? Là-dedans.
Des Legos.
Des Legos.
Alors, qu'est-ce que vous construisez, Hubert? Donnez-moi une idée de ce que vous construisez.
Ah, ben, j'ai donné la piqûre des Legos Star Wars. Fait que des fois, moi, j'y en donne un bon chasseur TIE Fighter, puis après ça, ben, moi, je me monte un X-Wing.
Quelle belle façon, hein, Hubert, de se rapprocher de notre garçon aussi, hein?
Ben, c'est parce que ça remonte à loin, parce que, tu sais, j'ai fait des Legos quand j'étais bien jeune, tu sais, fait qu'à un moment donné, tu sais, on vieillit, puis à un moment donné, boop, on a une passe que, on n'y pense pas, tu sais, puis là, à un moment donné, là, avec mon garçon, tu sais, j'ai fait découvrir ça, puis là, je suis comme, ah, tiens, ça me tente d'en faire, tu sais, c'est ça que j'aime de
bravo.
Ce côté-là.
Bravo, bravo, merci, Hubert, pour l'appel. J'ai quelqu'un qui m'écrit, Michel, il dit... Depuis que j'ai des enfants, je suis retourné en enfant. J'adore les jeux où on rentre dans l'imaginaire. Les barbiers sont revenus dans ma vie grâce à ma fille de 7 ans.
Qu'est-ce que c'est, les barbiers, à ton avis?
Ben, je sais pas. Ah, les Barbies. Ça doit être les Barbies.
Ah, les Barbies
ça doit être les Barbies. Barbies. Oui, c'est Barbie. Ben oui, c'est Barbie. C'est écrit Barbie, mais c'est les Barbies. Ben oui, c'est bien clair que c'est ça. C'est bien clair que c'est ça. Jean-François qui nous écrit, il dit « Bonjour, je fais de la lutte avec ma fille de 9 ans dans le milieu du salon comme mon père le faisait avec moi quand j'avais l'âge de ma fille, puis on rit toujours comme des fous. » Ça, je dois te dire, c'est une des choses où effectivement les enfants riaient le plus dans mon cas, là. Quand on, mettons, on jouait à se battre, là, tu sais, à s'amuser, à se tirailler, pas à se battre, ouais. À se tirailler, puis à se...
Lancer d'un coussin, puis à essayer de s'immobiliser, d'immobiliser l'autre. J'ai joué longtemps avec mes fils à ça, je joue maintenant avec mon plus jeune, mais disons que Nicolas et Martin, 6 pieds 2, là, je me tiraillerai pas longtemps, mettons.
Non, c'est ça. Ouais. S'amuser aussi à se... Comment est-ce qu'on dit ça, là, quand on essaye de se faire rire, là? S'amuser à se chatouiller. Moi, je suis très chatouilleur et mes enfants aussi le sont. C'est Sylvain. Bonjour, Sylvain.
Oui, salut.
On vous écoute, là.
Moi, c'est bien simple. Je m'amuse au travail. À tous les matins, je suis content. Je suis tout excité d'aller travailler.
Ah oui, vous avez du fun à ce point-là, vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Conduis des camions.
Ah, ben écoutez, continuez. Continuez. Ben oui, absolument. C'est...
Mais quand ton travail est un jeu, quand tu considères que ton travail est un jeu, puis que tu comptes travailler tous les matins, là, c'est un grand bonheur dans la vie, ça.
Quand t'aimes conduire, là, ça peut être un feeling incroyable de liberté. Là. C'est comme Sylvain, j'imagine, qui s'amuse. Il conduit son camion comme il jouait avec ses camions quand il était petit. Il y en a un qui m'écrit, Michel, jouer au baseball avec mon gars, se lancer la balle, c'est magique. Je dois dire, ça, c'est l'une des choses que j'adorais faire avec mon père parce qu'il était cultivateur. Les dimanches après-midi, c'était la seule période de la semaine où il était en congé. Parce que le matin, il faisait la traite. Après ça, il allait à la messe. On allait à la messe. Puis en revenant, là, on mangeait du shake and bake. Puis là, on pouvait se tirer à balle l'après-midi puis jouer un peu à balle là, dans le champ en arrière. Puis se lancer la balle avec mon père, là, sortir le gant puis se lancer à balle, là, c'était vraiment magique, ça.
Des beaux moments partagés. J'ai pas partagé ça avec mon père, malheureusement.
C'est Stéphane, maintenant, qui nous appelle pour conclure. Bonjour, Stéphane.
Hey, salut vous deux, j'espère que ça va bien.
Très bien, très bien. On vous écoute.
Oui, écoute, moi, la dernière fois, pour juste renchérir à Michel, tu sais, nos enfants grandissent, on faisait de la lutte. Et la semaine dernière, mon gars m'a fait une descente du coude, il m'a pété une côte. 7 ans et demi.
7 ans et demi?
Oui, 7 ans et demi, mais à 60-quelques livres, là, tu sais, tu te mets en position tortue. Mais là, je me mets plus jamais en position tortue avec mon gars, il m'a pété une côte.
Ben vous le prenez en riant, en tout cas?
Ben écoute, il m'a regardé, ça a fait crunch, puis il m'a dit « Oh, papa, je pense qu'on va arrêter la lutte.
» Ben écoute, je me souviens de faire des passes de karaté avec un de mes fils, il me casse un orteil aussi, moi. Il faut pas oublier qu'on peut s'amuser comme des enfants, mais pas oublier qu'on n'est plus des enfants.
Merci.
Ça me fait plaisir, bonne journée.
Merci beaucoup. Un autre auditeur qui m'écrit en terminant, Michel, 35 ans. J'adore les glissades d'eau, les jeux d'eau, jouer aux cartes, jeux de société. À Noël, avec ma famille, on jouait à des jeux de silence, on joue. Faites-moi jouer, j'adore. Tu vois, lui, c'est clair qu'il a gardé son cœur d'enfant, là.
Alors, est-ce que tu connais le jeu Uno?
Le jeu quoi?
Uno.
Je l'ai vu, là, dans sa boîte, mais je me rappelle-moi.
Procure-toi ça, absolument. Je ne veux pas te l'expliquer, là. Je ne verrai pas comment je pourrais te l'expliquer. Mais en famille, là, c'est vraiment formidable. Et tu vas jouer et jouer et rejouer et rejouer, puis toutes les raisons vont être bonnes pour dire « Hey, on se fait une partie de Uno. »
Même avec des enfants de 22 et 20 et 15, comme j'en ai, oui?
5 ans, 12 ans.
Ah,
le
oui?
meilleur dans la gang, c'est mon fils de 12 ans.
Ah, c'est intéressant.
C'est un jeu, il faut que tu réfléchisses, c'est un jeu de stratégie. Mais stratégie n'est pas compliquée. Tu n'embarques pas là-dedans pendant 3 heures de temps. Là. C'est vraiment partie par partie, mais c'est vraiment formidable. Très simple et très intelligent, Uno.
C'est chouette. Quelqu'un d'autre, juste avant d'aller à la pause. Quand j'étais plus jeune, j'allais en forêt, puis on s'inventait une histoire, moi et mon fiston. Puis on va se promener en forêt, puis on regarde les empreintes d'animaux, etc., etc. Ah, ben c'est vraiment trippant.
T'as vraiment beaucoup de gens. Oui, beaucoup de gens qui sont capables de retrouver leur cœur d'enfant.
Construire une cabane en bois, m'écrit Marie. OK, on s'arrête parce qu'au retour, un sujet moins rigolo, c'est Léger, la firme Léger qui a fait un sondage qui dévoile que 40 % des Québécois, Michel, ont déjà souffert d'un épuisement professionnel. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est votre cas, les auditeurs? Dans un instant.
Drainville PM. Faut que je te raconte. Voici Michel Barrette.
J'allume la télévision, puis je trouve plus rien de bon. M'en finir par l'avoir assez, je vais finir par en avoir marre. M'en finir par plutôt faire ça, m'en finir par tout saper là. Je n'ai plus mon fils de casse.
Tu connais la chanson, mon Michel?
Cette année, ben oui, notre
argent sur la boîte nationale. Exact. Alors, Jean-Marc Léger, donc, enfin la firme de Jean-Marc, sondage Léger, donc, qui dévoile que 40 % des Québécois auraient déjà souffert d'un burn-out, un épuisement professionnel. Si on peut juste se consoler, c'est beaucoup plus élevé chez les autres Canadiens. Eux autres, c'est presque 60 %. Mais 4 sur 10 au Québec, Michel, c'est beaucoup, là.
Beaucoup. Mais en même temps, oui, je suis surpris et content d'apprendre qu'on est moins quand ils ont burn-out que le reste du Canada, mais en même temps, c'est quand même beaucoup.
Alors, juste pour que les gens nous suivent, un burn-out, là, ça ne veut pas nécessairement dire une dépression, OK? C'est comme...
Non, épuisement professionnel, ça serait peut-être le mot...
Exact. Alors, des symptômes, fatigue persistante, des problèmes de maux de dos, des migraines, donc des douleurs physiques, problèmes digestifs, problèmes cutanés, sommeil perturbé également. Quand tu entends ces symptômes-là, est-ce que tu te reconnais?
Non seulement je reconnais une période de ma vie quand même récente, et on va rajouter à ça, ben écoutez, je vais te raconter. Il y a quelques années, je venais de terminer le tournage de L'origine d'un cri. J'étais en plein tournage du Bonheur des autres, un film. Je tournais aussi dans une série policière qui s'appelait Gentleman. J'étais à la télévision tous les jours avec France Castel et j'étais en tournée de show en province avec mon spectacle d'humour en même temps. Un matin, j'ai pris la sortie chez moi, j'ai embarqué sur l'autoroute 20 et j'ai stationné la voiture sur l'accotement et je suis parti à pleurer. Et si quelqu'un m'avait demandé qu'est-ce que t'as, j'aurais dit je sais pas. Alors, si c'est pas ça de l'épuisement professionnel, je sais pas c'est quoi.
Et comment te gérer ça?
Ben, ma femme a dit là, il y a une limite, là. Ça, c'est beau de gagner des sous et de dire oui à tous les beaux projets, là, mais tu vas faire des choix. On s'est assis, on a regardé qu'est-ce qui s'en venait devant, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait éliminer. Et on s'est dit qu'à partir de maintenant, on éliminait tout ce qui dépassait 6 mois de travail par année. Parce que ça fait quand même 36 ans que je fais mon métier, ne serait-ce que d'humoriste. Hein. Mm-hmm. Alors on s'est dit, tiens, ce sera comme une semi-retraite qui te permettra de pas devenir fou et d'avoir du plaisir à faire ce que tu fais, puisque j'avais plus de plaisir du tout. Alors c'est un choix qui a été dur, parce qu'on a toujours des beaux projets qui nous sont présentés, heureusement pour moi. Mais il y a aussi la vie, puis il y a aussi la santé physique et mentale.
Alors, avez-vous appris à dire non? Hein? Ça pourrait être une manière de l'aborder avec les auditeurs, Michel. Tu penses pas apprendre à dire non? C'est difficile. C'est difficile d'apprendre à dire non.
Apprendre à dire non et gérer la parce que c'est beau de travailler, c'est bien, surtout si vous aimez votre travail. Mais est-ce que vous êtes capable aussi de départager votre temps et de vous donner... C'est drôle parce qu'il y a un petit lien à faire avec le jeu. Est-ce qu'on est capable de penser à autre chose que performer, travailler, gagner de l'argent, ou si on roule tous vers le mur?
Et l'avez-vous vécu, l'avez-vous connu le mur, un peu comme ce que tu nous as décrit, Michel? Toi, t'as connu le mur, mais tu l'as, comment dire, tu t'es arrêté avant, là. Tu t'es mis à brailler devant le mur, mais t'es pas rentré dans le mur, là. T'as pas fait une dépression en bonne et due forme?
Non, mais rendu là, c'était pas loin. Rendu là, si j'avais pas eu des bons conseils de ma femme et que j'avais pas pris les bonnes décisions, je pense que c'était super.
Alors, 790-9850, 98985, Drainville à commercial, 985fm.ca. Est-ce que vous avez connu ça, le burn-out? Puis quelles leçons vous en avez tirées? Comment est-ce que vous avez réussi à vous en sortir? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez bien avec ça? Est-ce que vous avez tiré les bonnes leçons puis ça vous a permis peut-être de mieux gérer votre vie, d'être plus heureux, moins fatigué, mieux équilibré? Parce que ce que tu m'as décrit, là, les tournages et tout ça, tu peux pas t'asseoir avec ta blonde puis dire, bon, ben là, on va éliminer des tournages. Tu es obligé de finir ce que tu as commencé.
On a fait un décompte, carrément un décompte, comme quand on attend Noël, là. Et jour après jour, ma blonde m'a dit, mon amour, il te reste tant de jours de tournage, il te reste tant de spectacles. Et j'étais vraiment, il y en a moins. Amour, il y en a moins. Je sais que c'est difficile, ça s'en vient. Et là, il y avait les vacances prévues, là. Et là, on comptait le nombre de jours avant les vacances. Et comme ça, quand je suis arrivé à terme, puis quand les projets se sont terminés, là, parce que c'est le film, la série,
oui. Tu
prends un grand respire et si ton agent t'appelle, tu raccroches. Si ton
agent
t'appelle en disant il y a un scénario formidable, tu laisses pas finir la phrase. J'ai dit, je suis certain qu'il est formidable, place aux jeunes, laisse-moi respirer.
Laisse-moi me reposer, là. J'ai donné. Alors, c'est Donald qui nous appelle pour la première fois, je pense, Donald. Bonjour.
Oui, bonjour, oui.
On vous écoute.
Écoutez, j'ai vécu ça, moi aussi, épuisement professionnel, quand j'avais 35 ans, à peu près. Là, j'en ai 60, donc j'ai appris à m'organiser. Mais j'ai vécu même pire que ça. J'étais sur la route à livrer des clients. Alors, il fallait satisfaire autant les clients que la conjointe, puis ça n'allait pas bien au niveau du couple en plus. Alors, j'étais sur la route, j'avais 100 km à faire. À mon retour, à un moment donné, j'ai fait comme 80 km que je me souviens même pas de la route.
Et comment vous avez réglé ça, Donald? Dites-moi.
À un moment donné, on fait des choix. La vie de couple ne fonctionne pas. Parfait. Salut, bonjour. La business, ça fonctionne plus ou moins. C'est trop stressant. Merci, bonjour. On ferme les portes. Puis on fait autre chose. Puis il faut dire qu'à un moment donné, même après ça, c'est que j'ai été à l'hôpital pendant 4 semaines pour épuisement professionnel, même dépression profonde. J'étais après deux semaines que je me souviens même pas de qu'est-ce que j'ai où j'étais. Là.
Mais vous êtes sorti, vous êtes sorti plus fort de ça. Vous avez fait des choix. Puis par la suite,
Ah oui. J'ai appris à me redécouvrir là-dedans. Puis ça m'a renforcé. Puis maintenant, les épuisements professionnels, je sais quand elles s'arrêter. Je sais comment contrôler puis gérer le stress. Les vies de couple, les relations aussi, c'est la même chose. On apprend des choses. On n'est pas parfait.
Très bien. Merci, Donald. Bonne chance pour la suite des choses.
Ce que Donald dit, dans le fond, c'est de faire un choix de priorité. Hein? Parce que souvent, c'est le couple qui va exploser. Alors là, monsieur, 4 semaines à l'hôpital, là, je veux dire.
Non, c'est ça. Il a frappé le mur, mais il s'en est bien sorti. John, bonjour.
Bonjour, M. Drainville, M. Barrette.
On vous écoute.
Bonjour, monsieur.
Alors, mon histoire, c'est ça, un peu comme Donald, sauf que moi, ça n'avait pas affecté mon couple ni ma santé, mais je m'en allais vers ça. Alors, un beau matin, je suis rentré, puis le boss n'était jamais content. J'ai dit, sais-tu quoi, ça finit aujourd'hui. J'ai claqué la porte, puis pendant 3 semaines, j'ai resté chez nous. J'ai fait un peu de téléphone à gauche puis à droite. J'ai accepté une couple de petits mandats dans le domaine où j'étais. J'ai fait à peu près la moitié du salaire que je faisais. Donc, tu fais des choix. On a mis de côté les voyages. On a mis de côté les rénovations de maison. Mais ça m'a permis de me rebâtir une santé mentale et tout. Et puis, 3 ans plus tard, j'ai pogné 2 très bonnes gens. Puis, la vie est belle. Puis, c'est ça. C'est pas mal ça que j'ai rêvé, M. Barrett.
Je trouve ça intéressant. Bravo, John. Qu'est-ce qui vous a convaincu, John, que vous aviez pris la bonne décision?
Ben, mon esprit mental avec mes amis, ma famille, suite à mon départ. Tu sais, j'ai commencé à avoir le goût de voir du monde, d'avoir du fun, puis me stresser surtout. Mais bien entendu, M. Drainville, moi, j'avais 2 fils, 5 vingtaines, début trentaine, qui étaient pas mal autonomes. Donc, je pouvais un peu me le permettre aussi. Je comprends la personne qui est pognée avec des jeunes enfants aux études et tout. Peut-être qu'ils peuvent pas. Moi, je pouvais me le permettre. Alors, mais comme je vous ai dit, j'ai fait des sacrifices quand même au niveau de, ben, soi-disant qualité de vie, tu sais, mais des fois, on prend des voyages 2 fois par année pour se reposer, on est tellement burn-out. Fait que, c'est ça. C'est pas mal ça.
Vous avez l'air à bien vivre, en tout cas, avec votre décision, John. Merci pour l'appel.
Oui, merci, M. Drainville.
C'est intéressant, pendant ce que monsieur disait concernant les vacances, parce que lorsque je travaille beaucoup, bien sûr, c'est plus de sous que je travaille moins, mais quand c'est rendu que tes vacances ne te permettent même pas de récupérer ta santé, ta santé mentale, ben, y a un problème. Alors que parfois, t'es mieux d'avoir moins de vacances parce que tu as moins de moyens, mais de passer plus de temps avec les tiens, parce que être chez soi, c'est aussi des vacances. Si t'es pas stressé, puis si t'es capable d'apprécier les autres.
Hein. Tu vois, Claude, il nous écrit en terminant, Michel, il dit « Le plus difficile, c'est la stigmatisation et l'incompréhension venant des autres qui nous trouvent paresseux. Les gens pensent qu'on fake. Je travaillais 3 jobs, plus le transport entre les 3, l'élastique a pété. Je suis devenu mentalement engourdi, vidé, une inconscience vieillie. » C'est ce qu'il me dit, une inconscience vieillie. Il y a quelqu'un d'autre qui écrit, Michel, il dit « Complément de question, avez-vous les moyens financiers de ne pas devoir tout faire et de pouvoir diminuer? Il dit, moi, je ne suis pas capable.
Et ça, c'est un drame. Ça, c'est un drame parce que lorsque notre condition financière a été obligée de courir comme un fou ou comme une folle, bien là, non seulement tu t'en vas vers le mur, mais le mur, il est inévitable parce que si c'est pas le mur, ben c'est la faillite ou c'est des gros problèmes financiers. Ça, c'est immensément plus.
Faites attention à vous. Faites attention à vous. Merci, Michel. Je te retrouve demain.
Oui, demain, on se reparle. Et en attendant, prends un grand respect par l'histoire que mon enfant nous a.
J'essaye. Je m'amuse de plus en plus, mon cher. À demain.
C'est gentil. Merci, Bernard.
Salut, mon gars. Après la pause, cette information, cette nouvelle, qui, à mon sens, à moi, est très grave. Là, on a appris que Boeing savait qu'il y avait un problème de logiciel avec ses 737 MAX. Ils le savaient depuis 2017, puis ils ont laissé des gens embarquer dans ces avions-là, dont certains sont morts. Le vol de la Lion Air en Indonésie, le vol en Éthiopie. C'est épouvantable. On en parle après la pause.